Chapitre 2. À la rencontre de l'autre.
Sans pouvoir l'expliquer, de façon presque naturelle, certaines rencontres s'imposent à nous, nous parlent dès le premier instinct, dès le premier regard. La rencontre de deux inconscients. Une personne incontournable que nous avons le sentiment de connaître depuis longtemps, depuis toujours, au plus fort de nos sentiments, et avec qui nous nous sentons bien, instantanément bien. Pourtant, notre rationnel nous parle, nous confronte à la réalité de ce contact récent, à l'impossibilité de quelconque retrouvaille. Comment puis-je être si fortement attiré par quelqu'un que je ne connais pas? Et l'irrationnel s'exprime aussi, forte intuition qui, de l'intérieur, nous dit combien notre vibration est intense, comme nous nous sentons bien avec cette personne, d'un bien-être familier, lointain, au cœur d'une profonde sérénité. La dissonance entre le rationnel et l'irrationnel s'exprime réellement en soi et provoque le trouble. En fait, les deux perceptions sont vraies. Le rationnel reconnaît l'évidence de la nouveauté de la rencontre. Effectivement, ce visage et ce regard n'ont jamais croisé le nôtre. L'irrationnel nous plonge au cœur de notre monde émotif, nous révèle l'écho que provoque cette personne avec notre histoire. Toutes les personnes qui nous touchent sur le plan émotif révèlent une part inconsciente de notre histoire émotive. Tout est fonction du point d'ancrage où se situe la personne dans son histoire. Une personne qui a fait le bilan de ses douleurs d'enfant en thérapie choisira d'entrer ou non dans une telle relation. Malgré l'attirance intense du départ, une personne au clair avec son passé sera libre d'accepter ou de refuser le contact. Une personne qui ne se comprend pas peut, certes, se leurrer au tout début et croire avoir enfin trouvé cet amour qu'elle recherche depuis longtemps, celui qu'elle n'a jamais reçu dans sa vie, à l'origine, mais sans le savoir, l'amour absent de ses parents. Mais très vite, un malaise s'installe, une véritable frustration. Au bien-être succède la souffrance, l'incommunicabilité et une impossibilité d'exprimer ses besoins. La personne rencontrée ravive en direct un lien douloureux et inconscient. Elle met à distance et elle méprise, comme les parents l'ont fait. Elle est incapable d'amour. La vie du moment devient cet épisode bien connu, qui se répète une fois encore dans la souffrance intérieure et plonge l'individu dans le plus grand désarroi.
Se mentir à soi, en solitaire ou en fusionnel?
Quelle que soit notre relation à l'autre, elle est toujours fonction de notre personnalité. Pour certains individus, la tendance à être solitaire ou fusionnel prend la tangente d'un extrême qui emprisonne, dicte les comportements et les choix dans la relation à soi et à l'autre. Ainsi assiste-t-on fréquemment à des courses effrénées entre le solitaire et le fusionnel. Pour le solitaire, tu m'envahis, tu m'étouffes, j'ai besoin de distance. Et pour le fusionnel, je te veux, je suis complètement disponible et toi, tu me fuis toujours. Combien de fois, en bon solitaire, avez-vous été envahi par une peur panique de l'intrusion de l'autre? Combien de fois, en bon fusionnel, avez-vous couru après un solitaire convaincu qui s'évertuait à mettre de la distance entre lui et vous?
Le profil psychologique du solitaire.
Le solitaire a acquis une grande autonomie extérieure et semble n'avoir besoin de personne. Il entretient la conviction de pouvoir se débrouiller seul et en toute situation. Laissé pour compte sur le plan émotif depuis sa plus tendre enfance, ses parents ont très peu compris le merveilleux enfant qu'il était, même s'il a cherché par tous les moyens à le leur prouver. Malheureusement, il n'a jamais vraiment réussi et s'est senti profondément blessé par cet échec dont il s'est cru seul responsable. De là est né ce sentiment de culpabilité qui ne l'a jamais quitté. Devenu adulte, le solitaire ne fait pas de concessions et coopère difficilement. C'est un individualiste et par nature, c'est lui qui mène. Il est le plus savant et a des idées sur tout. Il exerce un contrôle serré sur le cours de sa vie et tente même de le faire avec les rares élus de son cœur, ceux avec qui il voudrait entretenir une relation intime. Le solitaire possède un grand potentiel analytique qui lui permet de cerner ses manques. En aucun cas, cependant, il ne les dévoilera. Doté d'un bel esprit, il est individu à savoir choisir avec justesse les mots et les arguments pour convaincre. Le solitaire vit beaucoup dans la planification acharnée de projets futurs qui le stimuleront et rehausseront son estime de soi, surtout une fois réalisé. Évoluant dans ce cadre rigide et contraignant, il conçoit une série impressionnante d'actions visant les objectifs à atteindre. Le solitaire n'est pas un jouisseur et les contraintes font naturellement partie de son monde intérieur. N'oublions pas que les plaisirs gratuits lui sont étrangers. Pour avoir du plaisir, il faut préalablement qu'il ait payé, d'une façon ou d'une autre, par un travail acharné et la dépense d'une énergie coûteuse. Recevoir sans avoir donné est impossible. Le solitaire a le sentiment qu'il doit tout mener de front et qu'il doit être fort, compétent et sans limite. Apparemment, tout lui réussit, et en effet, il excelle souvent dans tout ce qu'il entreprend. Socialement, le solitaire est un individu qui s'affirme avec subtilité et entre facilement en contact avec les autres. Intérieurement, le regard de l'autre le torture, il n'est pas du tout à l'aise, mais ceux qui l'observent de façon superficielle jureraient du contraire. Le solitaire est un être narcissique, son premier objet d'amour et d'admiration est donc lui-même.
La face cachée du solitaire.
L'enfance du solitaire s'est soldée par une profonde blessure issue de sa relation avec les premières personnes signifiantes de son entourage, la plupart du temps la mère et le père, ou encore les substituts parentaux. Manque de disponibilité psychologique, manque affectif, conflit entre les parents, relation fusionnelle aux parents, froideur de la mère, absence du père, agressivité des parents, etc. Autrement dit, ce qui a créé des dommages chez lui, ce sont les premières relations affectives vécues et subies. Il en a été profondément blessé. Aujourd'hui adulte, le solitaire n'a jamais oublié la douleur des relations affectives, alors il s'en protège.
Le mensonge à soi du solitaire.
Ce mensonge à soi est à la mesure du paradoxe contre lequel le solitaire se bat en permanence. Au plus profond de lui-même, il voudrait être accueilli et sécurisé par l'autre, mais si quelqu'un semble s'intéresser à lui, cette personne, pourtant tant attendue, devient du même coup dangereuse, le gêne et l'agresse. Alors, il se méfie, se replie, et vit toute tentative de rapprochement de l'autre comme une intrusion qui va en toute certitude lui être fatale. Il est aisé de comprendre que le solitaire est naturellement attiré par deux types de personnes. Les fusionnels, diamétralement opposés à lui, qui disposent donc d'une dimension qu'il sait manquante chez lui et qu'il convoite, et les solitaires, comme lui, dont il peut se rapprocher sans danger, puisqu'il cherche constamment à se distancer.
Le profil psychologique du fusionnel.
Le fusionnel est le pendant du solitaire, son miroir. Comme lui, il a une peur panique d'être abandonné. À l'extérieur de sa relation à l'autre, il n'existe pas. On reconnaît aisément le fusionnel dans cette tentative perpétuelle de vouloir rester en contact et en relation avec l'autre grâce aux manipulations les plus créatives. Pour être aimé, il est prêt à tout. Son drame réside en ce que le lien qu'il entretient avec lui-même est quasi inexistant ou très négatif. Tout à coup, il s'anime dans le regard de l'autre. Pour maintenir le contact, il s'oublie et dédie une part significative de sa vie à la réussite de l'autre. Souvent, il évitera les conflits et la verbalisation de ses propres besoins, même les plus élémentaires. D'ailleurs, ces demandes sont souvent mal perçues par le solitaire, qui les décode, évidemment, comme des tentatives d'intrusion et de contrôle. Par peur de perdre l'autre, le fusionnel adoptera toutes les stratégies possibles afin d'éviter les confrontations. Il est toujours prêt au compromis. En soi, la tendance est honorable, mais pas dans son cas, car il n'a pas le choix pour éventuellement garder l'autre près de lui. L'estime de soi est très déficiente, car il n'est pas en contact avec son individualité. Son objectif de vie consiste essentiellement à satisfaire les besoins de l'autre et telle devient la source dans laquelle il puise son propre oxygène. Il est alors clair que l'absence de l'autre génère une véritable asphyxie. Il se sent vide et extrêmement angoissé. Le fusionnel est près de son corps, entre de plein pied dans le champ des émotions et nourrit un imaginaire fertile. La sociabilité est l'un de ses principaux traits de caractère. Il est très facile d'entrer en contact avec lui, car il est fort agréable, invite à la discussion, fait preuve d'un intérêt manifeste au propos de l'autre et n'hésite pas à se dévoiler. S'il est blessé, il peut se refermer et s'isoler, à l'occasion, en gardant rancune, mais il ne dispose pas longtemps de ce luxe, car la distance lui est insoutenable. Très vite, alors, il retourne à l'autre dans un élan de panique pour réitérer et renforcer ses comportements de soutien inconditionnel. Le fusionnel est intuitif, même s'il n'accorde à son intuition qu'un crédit très relatif et ne l'utilise pas à bon escient, notamment pour prendre soin de lui. La plupart du temps, son cœur ressent avec justesse ce qui fait défaut, mais il a tendance à rationaliser et à douter de lui. Il se conforme alors à la logique de l'autre pour satisfaire ses besoins. Le dynamisme du fusionnel est au cœur de son charme. En apparence, il est plein d'une énergie vive et bouillonne de passion. Il est l'être du moment présent et recherche perpétuellement les gratifications immédiates dans des actions orientées vers l'autre. Ainsi, il lui est fort difficile de maintenir la motivation intrinsèque nécessaire à la conception et à la réalisation de projets qui n'impliquent que sa propre satisfaction. Sa stimulation lui vient avant tout du regard de l'autre. Et même lorsqu'il est seul, il puise la motivation dans des pensées qui supposent l'anticipation du jugement positif de l'autre face à ses actions. Position immature dans laquelle il se pose comme un enfant en attente de la validation parentale. Vivre à deux et maintenir le lien à l'autre constitue ses préoccupations principales et monopolise une part significative de son énergie mentale et de ses actions. Vous l'aurez compris, il doit absolument, envers et contre tout, être en relation pour être.